Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous continuons à nous pencher sur ce nouveau monde que nous prépare le président américain Donald Trump. Magnat de l'immobilier, milliardaire, le chef de l'État américain est convaincu qu'il faut appliquer à l'économie de son pays des recettes qui permettent aux entrepreneurs de se développer sans entrave. Donc moins de réglementation et au bénéfice des chefs d'entreprise, des banquiers comme des financiers. Mais moins de contrôle. Est-ce ce dont l'économie américaine a besoin ? Écoutez la réponse du commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici. C'était la semaine dernière dans Carrefour de l'Europe, sur RFI, au micro de Daniel Desesquel.
S'ils veulent avoir d'autres Lehman Brothers, c'est leur problème. Nous devons continuer à protéger notre système bancaire, parce que protéger le système bancaire, c'est protéger les déposants. Protéger les déposants, c'est éviter la contamination d'éventuelles crises financières sur l'économie réelle.
Moins de contrôle, est-ce ce dont le monde a besoin ? Ou au contraire, faut-il plus de régulation, plus de contrôle ? Voilà ce que disait Nicolas Sarkozy le 2 avril 2009.
Il est maintenant acté que c'est la défaillance de la régulation qui est à l'origine de la crise financière. Les hedge funds seront désormais réglementés, feront l'objet d'une obligation de déclaration, contrôle des engagements des banques vis-à-vis de ces fonds. C'est du jamais vu.
Alors, faut-il vraiment moins de régulation ? Est-ce nécessaire, par exemple, pour réduire les inégalités sociales aux États-Unis ? Et moins de régulation, n'est-ce pas prendre le risque d'une nouvelle crise financière, comme celle provoquée en 2008 par un secteur financier américain à l'imagination fertile ? Crise qui avait plongé des millions de citoyens américains dans la misère et le monde entier dans une crise économique sans précédent. Voilà les questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, ESCP Europe. Vous êtes par ailleurs directeur de la rédaction de la revue Sociétale, revue qui est l'émanation de l'Institut de l'entreprise, un think tank, comme on dit, proche des milieux patronaux et qui réfléchit à la place de l'entreprise dans la société. Ce think tank vient de lancer une campagne pour limiter la dépense publique. Vous-même, vous avez publié dans le journal Les Échos il y a quelques jours une tribune dans ce sens. Est-ce que moins de dépenses publiques, cela passe aussi par moins de régulation ?
Alors je pense qu'effectivement ça passe par moins de régulation si on veut bien accepter que derrière l'idée de moins de régulation, il y a plus de concurrence. Je crois que face à la régulation, le bon outil c'est la concurrence.
Alors j'ajoute que vous êtes un auteur prolifique et qu'on peut trouver en librairie une petite histoire iconoclaste des idées économistes. C'est aux éditions Pocket, donc un livre pas très cher. Avec nous dans ce studio également Thierry Philipponat, bonjour.
Bonjour.
Thierry Philipponat, après avoir été banquier, vous avez participé à la fondation à Bruxelles de l'ONG Finance Watch. Aujourd'hui vous êtes membre du Collège de l'Autorité des Marchés Financiers, le régulateur de la place de Paris, et vous dirigez l'Institut Friedland à Paris, qui s'est donné pour mission de contribuer au débat public sur les conditions nécessaires au développement des entreprises. Je cite quelques lignes glanées sur le site internet de cet institut. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire de militer pour l'entreprise et d'être en même temps régulateur ?
Pas du tout. L'économie, c'est un équilibre à trouver. Et sur les questions de régulation, il s'agit tout simplement de trouver l'équilibre entre les intérêts privés et l'intérêt général. Tous les bons auteurs l'ont dit, depuis Adam Smith et bien d'autres depuis. Voilà.
Alors je termine ce premier tour de table par vous, Pierre-Noël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Noël Giraud, vous êtes prof d'économie à Mines Paris Tech et à l'Université Paris Dauphine. Votre dernier livre aux éditions de La Découverte s'intitule très sobrement « Principes d'économie ». Est-ce que c'est le livre d'un partisan de plus de régulation économique ou de moins de régulation ?
Tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. En effet, je pense que quand un économiste est partisan de quelque chose, il doit bien préciser d'abord quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est de réduire les inégalités et leur forme extrême aujourd'hui, qui est l'exclusion et l'inutilité, alors oui, je suis pour que les grands blocs, pas la France toute seule, au moins l'Europe, retrouvent une certaine autonomie de politique. Et pour ça, plus de régulation.
Au cours de cette émission, nous allons retrouver Pierre-Yves Dugas à Washington pour faire le point sur les ambitions réformatrices de Donald Trump. Dans la deuxième partie de l'émission, nous irons en Californie avec l'envoyé spécial de RFI Nicolas Champeau et dans le Nord Kivu, à Goma, en RDC, avec un reportage de Stéphanie Aglier. Une question un peu générale pour démarrer, que je pose aux professeurs d'abord, aux deux profs qui sont là dans ce studio. Une économie régulée, qu'est-ce que c'est ? Une économie dérégulée, qu'est-ce que c'est, Jean-Marc Daniel ?
C'est une économie dans laquelle intervient de façon plus ou moins importante l'État. Alors il intervient en émettant des règles et puis il intervient après en sanctionnant par la loi le non-respect de ces règles. Une économie dérégulée, c'est une économie qui cherche à obtenir les mêmes résultats. C'est-à-dire, Pierre Moscovici l'a dit, c'est-à-dire on ne veut pas reproduire les événements de 2009 et on veut, en l'occurrence en la matière financière, on veut protéger le déposant. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres outils que l'intervention de l'État ? Je dirais qu'il y a deux choses qui caractérisent les partisans de la régulation, c'est la conviction que l'État sait mieux que le marché quels sont les moyens de calmer le jeu, d'encadrer l'économie, de répondre aux attentes de la population. Il y aurait une sorte de pouvoir, de sagesse incarnée par l'État. Or, les États font des erreurs, les États sont quelquefois arbitraires, et donc je pense que l'idée d'une régulation par un État porteur d'un savoir est une idée qui est un peu réductrice et un peu rapide. Le deuxième élément, c'est est-ce que la concurrence, en revanche, est-ce que le marché, lui, est capable de résoudre les problèmes ?
De réguler.
Et de réguler. Alors, le véritable enjeu, c'est que je pense que le marché apporte une véritable solution. Le véritable enjeu, c'est qu'il soit véritablement respecté. Et pour moi, la bonne combinaison entre régulation et marché, c'est d'avoir un État qui gère le droit de la concurrence. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte que la concurrence soit véritablement respectée, que les entreprises aient la conviction que tout écart sera puni par l'émergence d'un concurrent qui leur prendra des parts de marché.
Pierre-Noël Giraud, vous partagez la même définition de régulation, dérégulation ?
Je partage absolument l'idée que il y a deux mécanismes complémentaires, la régulation et la concurrence sur les marchés, et que tout est affaire de croyance dans l'efficacité relative des uns et des autres.
Voilà. C'est-à-dire, tout est relatif.
Nous avons nécessairement besoin, je crois que aucun libéral ne nie la nécessité d'un État régulateur. Même Adam Smith, le fondateur de l'économie politique, admettait que l'existence de biens publics est donc la nécessité d'un État, y compris pour assurer la concurrence. En effet. Donc personne ne nie à la nécessité des deux, mais tout est à faire dans une situation concrète, de l'analyse concrète de cette situation et des dosages. Or, nous avons essayé depuis 30 ans un grand libéralisme.
C'est qui nous ?
Nous, c'est-à-dire les gouvernements du monde, sauf la Chine. Sauf la Chine. Ont essayé un grand libéralisme et en matière commerciale et en matière financière, avec des résultats qui sont ce que l'on sait, à savoir un krach financier majeur et ensuite une répartition des fruits de la croissance obtenue grâce au libéralisme commercial dont on peut s'interroger, sur laquelle on peut s'interroger, puisque toute la croissance américaine s'est concentrée en termes de revenus chez les 1% les plus riches, tandis que le nombre des working poor augmentait.
Donc on peut dire travailleurs pauvres.
Oui, les travailleurs pauvres. On peut dire que le libéralisme, on a déjà essayé. On peut peut-être essayer autre chose.
Philippe Onal, vous êtes un peu l'expert de la régulation, puisque vous êtes membre de l'Autorité des marchés financiers. Comment intervenez-vous pour réguler, puisque c'est la mission de l'Autorité des marchés financiers, c'est de réguler?
Absolument. L'Autorité des marchés financiers est le régulateur, comme son nom l'indique, des marchés financiers en France. Il s'insère dans un réseau de régulateurs un peu partout au monde. Et il y a les questions de coopération mondiale qui sont très importantes. On y viendra peut-être dans le cadre de relations avec les Américains, j'ai envie de dire demain. Mais quand on regarde ce qui a été fait en matière de régulation financière depuis pas loin de 10 ans maintenant, parce qu'on a la crise de 2007-2008, on commence à réguler en 2010, bon, 10 ans, j'y vais un peu fort, mais c'est l'idée. On a fait trois choses fondamentalement. On a essayé de mettre une régulation pour protéger les consommateurs. On a essayé de mettre en place une régulation pour renforcer la stabilité financière, alors beaucoup de mesures derrière, voilà. Et puis on a essayé de rendre les marchés financiers plus transparents, plus équitables. Grand débat, est-ce qu'on a réussi ou pas ? Réponse, on a fait des progrès indéniables. Est-ce que c'est parfait ? Non. Est-ce que c'est parfois excessif dans le détail ? Oui. Mais est-ce que la situation est meilleure qu'il y a 7 ou 8 ans en termes de règles du jeu? Parce que c'est de ça qu'on parle. La réponse est clairement oui. Donc, cette question de la régulation financière illustre bien le débat plus général de est-ce qu'on est pour ou contre la régulation. Et comme je vous le disais, je pense que c'est un débat qui ne mène pas très très loin. La réalité, c'est qu'il faut trouver l'équilibre. On a cité déjà deux fois Adam Smith, je vais le citer une troisième fois. Adam Smith dit très bien, la main invisible, l'initiative privée... La main invisible du marché, autrement dit, votre intérêt économique et le mien à agir sont des forces qui permettent de se développer, et oui, mais le même Adam Smith, dans La même richesse des nations, qui est son grand ouvrage, dit, il n'est pas dans la nature des agents privés de s'auto-limiter, et à un moment, la puissance publique doit dire, attention, il y a des règles du jeu pour assurer ce dynamisme économique et cet équilibre. Et la régulation financière, elle a essayé de faire ça.
Pierre-Noël Giraud, aujourd'hui, avant que les mesures préconisées par Donald Trump entrent en vigueur, est-ce qu'on peut dire que l'économie américaine est une économie régulée ?
Elle l'était. Par exemple, en matière commerciale, Trump annonce qu'il va prendre des mesures protectionnistes. Mais récemment et avant Trump, quand Alstom a voulu construire un TGV aux États-Unis, on lui a dit « bien d'accord, vous êtes le bienvenu, sauf que vous allez le fabriquer entièrement aux États-Unis ». Donc, si vous voulez, ce que j'appelle le mercantilisme, à savoir le fait de vouloir attirer des emplois nomades sur son territoire, date de 30 ans pour la Chine et a toujours été utilisé par les États-Unis. Trump veut monter en puissance, sauf qu'il se trompe complètement d'instrument. Il est tout à fait stupide d'utiliser les droits de douane. C'est nier la globalisation, c'est nier le fait que les entreprises ont fait éclater toutes les chaînes de valeur, et que ça sert à rien de leur dire « j'interdis les véhicules montés », alors que le montage est peut-être beaucoup mieux fait au Mexique si les pièces sont faites aux États-Unis. Donc ce qu'il faut, c'est imposer des contenus en valeur ajoutée locale. Voilà l'instrument mercantiliste intelligent aujourd'hui.
Que veut faire précisément Donald Trump ? Je pose la question à l'un des correspondants de RFI à Washington, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors Pierre-Yves, pourquoi Trump veut-il déréguler l'économie américaine ?
Donald Trump a promis de doubler la croissance aux États-Unis. À ses yeux, trois choses empêchent de doubler le rythme de la croissance. La taxation, la réglementation et les problèmes d'infrastructure. Et il promet de s'attaquer aux trois choses en même temps. Pour Donald Trump, déréglementer, c'est aussi tout simplement répondre au principal souhait des chefs d'entreprise, souhait qui est formulé avant même celui de la réduction du poids de l'impôt.
Alors Pierre-Yves Dugas, de quelle réglementation parle-t-on exactement ?
Tout est sur la table. L'objectif, d'abord, est de ne plus imposer de nouvelles régulations fédérales, dans un premier temps. Ensuite, de n'en accepter qu'une, à condition que par ailleurs, on en supprime deux autres. Donald Trump veut par exemple réduire le temps qu'il faut pour approuver la construction d'usines nouvelles, faciliter la réouverture des mines de charbon, autoriser la mise sur le marché plus rapide de nouveaux médicaments, éliminer les contraintes qui ralentissent l'octroi de prêts bancaires, stimuler l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, par exemple. Tout cela suppose une révision complète du Code fédéral des réglementations.
Mais ces réglementations, Pierre-Yves, sont-elles si lourdes qu'elles compliquent la vie des entrepreneurs américains ?
L'Association des sociétés manufacturières explique que les règlements qui sont censés protéger l'environnement les asphyxient. Ces règlements représentent 90% du coût de leur mise en conformité avec les règles fédérales, ce qui, à leurs yeux, défavorise l'industrie au profit des sociétés de services.
Alors il y a un élément central, c'est que Donald Trump veut aussi revenir sur la grande réforme bancaire de 2010, n'est-ce pas ?
Cette loi a renforcé le contrôle des risques bancaires. Elle oblige par exemple les banques à maintenir plus de fonds propres. Elle limite les activités de trading des banques. Elle a créé aussi un nouvel organisme pour protéger les consommateurs des abus commis par les banques. Dans un premier décret qui a déjà été signé par Donald Trump, le président demande un assouplissement de l'interprétation de ces règles. Enfin, la démission récente du gouverneur de la Fed, qui était chargé de faire appliquer nombre de ces règles bancaires, va clairement donner au président Trump une occasion de choisir un remplaçant beaucoup plus accommodant.
Je reviens sur ce que vous venez de dire, Pierre-Yves. Il y a la dérégulation financière et il y a la dérégulation industrielle. Jean-Marc Daniel, pourquoi vouloir déréguler l'industrie américaine quand les États-Unis sont au plein emploi ?
Le discours de Trump, effectivement, est assez paradoxal parce qu'il veut à la fois déréguler l'industrie pour relancer la croissance alors qu'effectivement, ils sont plein emploi. Il veut faire un effort sur les infrastructures et lancer des grands travaux un peu dans la logique du New Deal rooseveltien. Et là aussi, les États-Unis sont au plein emploi. Donc, sur le plan strictement conjoncturel, sa politique va se heurter, si tant est qu'elle puisse être très rapidement mise en œuvre, elle va se heurter à un surcroît d'inflation. C'est-à-dire que la réponse de l'appareil productif, qui ne peut pas immédiatement absorber cette demande supplémentaire, ce sera de l'inflation. Alors, à plus long terme, je pense que la logique de Trump, c'est une logique, d'ailleurs, on dit que c'est un ovni, mais qui répond assez à ce qu'avait été le Parti républicain à l'origine, le Parti républicain de Lincoln, dont on dit qu'il l'a trahi, mais sur le plan économique, il était très protectionniste vis-à-vis de l'extérieur et très libéral vis-à-vis de l'intérieur. Il était assez représentatif, à l'époque du 19e siècle, du patronat du nord des États-Unis, qui voulait construire sur un marché intérieur très très large, une économie puissante dans le libéralisme intérieur avec une protection très très sévère vis-à-vis de notamment de la concurrence européenne. Il s'inscrit là-dessus. Sur le plan industriel, je pense qu'il va se heurter à deux choses. La première, c'est que par rapport au 19e siècle, l'économie est mondialisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui rentrent aux États-Unis qui sont purement et simplement des produits qui concourent à la production industrielle américaine. Et la deuxième chose, c'est qu'il va se heurter à son électorat. C'est-à-dire que Nicolas Gregory Mankiw, qui est un des grands économistes américains, qui a été le conseiller de Bush, dit il ne voit pas que moi je vis en Europe, c'est-à-dire que j'achète une BMW, je suis habillé par Hugo Boss, je bois du Chablis, donc moi mes enjeux c'est pas la Chine et le Mexique. En revanche, ma secrétaire, elle au quotidien, elle vit avec des produits qui arrivent de Chine et du Mexique. Et donc s'il fait une politique protectionniste très ciblée vers la Chine, vers le Mexique, il va heurter le pouvoir d'achat de son électorat parce que les droits de douane, il dit je vais baisser les impôts mais je vais augmenter les droits de douane. Et les droits de douane, c'est son électorat qui va les payer.
Est-ce que monter les droits de douane, ça fait partie d'une politique de dérégulation? Non, c'est le contraire.
Non, au contraire. Et c'est quand il dit je vais déréguler, je vais baisser les impôts et je vais augmenter les droits de douane, c'est contradictoire. Les droits de douane, c'est de l'interventionnisme étatique, donc on perturbe le fonctionnement du marché, et c'est des impôts. Donc les trois éléments sont contradictoires.
Thierry Filippona, comment est-ce que vous regardez cette politique industrielle que veut mettre en place Trump? Est-ce que c'est compatible, cette régulation et ce protectionnisme, cette dérégulation plutôt?
Ce n'est juste pas compatible. La politique de Trump va mécaniquement, ne serait-ce que par les baisses d'impôts annoncées, on verra la réalité, mener à un déficit budgétaire plus important des États-Unis. Qui dit déficit budgétaire plus important, dit financement de ce déficit budgétaire. Si vous avez une politique protectionniste, notamment, et on voit bien toute sa rhétorique vis-à-vis ou contre la Chine et l'Allemagne avec lesquelles il y a de gros déficits commerciaux, c'est une certitude. Qu'est-ce que vous faites concrètement d'un point de vue financier? Vous appauvrissez vos banquiers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que qui finance le déficit budgétaire américain aujourd'hui en achetant des obligations du Trésor américain? Précisément les pays qui sont en excédent commercial vis-à-vis des États-Unis. La Chine, l'Allemagne, il y en a d'autres. Le Japon, certains pays du Golfe, etc. Mais autrement dit, ceux qui sont en excédent. Si vous faites du protectionnisme, mécaniquement, au fur et à mesure des années, ces États vont voir leurs réserves de dollars baisser. C'est juste de la mécanique de base. Et donc, la possibilité de l'État américain de financer son déficit sera réduite. Donc, j'ai envie de dire, c'est une incohérence de plus dans son plan, si tant est qu'il y a un plan. Mais en tout cas, ça ne marche pas.
Pierre-Noël Giraud?
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça va
avec ce que vient de dire Thierry Filippona?
Oui, non, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Marc Daniels et par vous. Il n'y a pas du tout incohérence. Regardez la politique du Japon dans les années 60 à 80. C'était protectionnisme à l'égard de l'extérieur, très forte compétition interne pour muscler les entreprises japonaises qui ensuite partent à la conquête du monde. Bon, on pourra dire que cette vision du monde est incompatible avec la globalisation actuelle et l'éclatement des chaînes de valeur, c'est vrai. Néanmoins, je pense qu'il y a une logique dans la politique de Trump, à savoir réattirer aux États-Unis des emplois nomades. Sauf qu'il se trompe totalement d'instrument. Le protectionnisme est complètement incompatible avec l'éclatement des chaînes de valeur. Il ferait mieux de faire comme ont fait les Chinois, avec le succès que l'on sait, à savoir dire « Nous sommes le premier marché du monde. Si vous voulez vendre une voiture aux États-Unis, vous devez en faire 30% de la valeur ajoutée aux États-Unis. Mais je ne vous dis pas laquelle, et je ne prescris pas laquelle par des droits de douane, c'est absurde. Je dis ça, et c'est possible techniquement, parce que maintenant vous pouvez mettre une puce RFID sur tous les composants et savoir instantanément finalement où a été faite la valeur ajoutée.
C'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous allons continuer à parler régulation, dérégulation, politique financière et économique américaine dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, consacrée à la volonté dérégulatrice du président américain Donald Trump. Trois invités dans ce studio, Thierry Filippona, directeur de l'Institut Friedland, membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, le régulateur français, Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP Paris, directeur de la rédaction de la revue sociétale, et Pierre-Noël Giraud, professeur à l'Université Paris-Dauphine, auteur du livre « Principes d'économie » aux éditions de La Découverte. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que Donald Trump voulait très largement déréguler l'économie américaine. Une première mesure vient d'être adoptée. Le chef de l'État américain a abrogé mardi dernier une règle qui obligeait les compagnies minières et pétrolières à rendre publics les versements faites aux États étrangers. Cette règle était destinée à limiter la corruption, les faits de corruption. Elle avait été instituée par le gendarme boursier américain très récemment, au mois de juin 2016. Thierry Filippona, pour vous, c'est de la bonne dérégulation ?
Non, c'est de la dérégulation qui part d'un principe qui est un principe extrême, pour ne pas dire extrémiste, qui consiste à dire que s'il n'y a pas de règles, tout ira mieux. Évidemment, le monde est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que ça. Et ça ne marche pas. Je prendrai un autre exemple qui me semble particulièrement frappant dans l'une des premières mesures qu'a pris le président Trump. Il a signé un décret présidentiel, executive order en anglais, disant que la règle sur le devoir fiduciaire qui imposait aux intermédiaires financiers américains de travailler dans le meilleur intérêt de leurs clients devait être abrogé.
On en parlera tout à l'heure.
Ça. Qu'il nous dit que travailler pour son client, ouais, c'est pas une bonne chose. Bon, voilà.
Mais Pierre-Noël Giraud, revenons à cette volonté d'éliminer le devoir fait aux compagnies américaines d'indiquer à qui elle donne de l'argent à l'étranger. Est-ce que c'est de la bonne dérégulation pour vous ?
Non, mais c'est une très mauvaise idée. Je veux dire, on sait très bien qu'en Afrique, une des malédictions qui pèse sur l'Afrique, c'est la malédiction de la rente minière et pétrolière. C'est une occasion de corruption, de gaspillage des deniers publics. Donc tout ce qui allait dans le sens de la plus grande transparence et donc de la meilleure gouvernance, c'était une excellente chose pour l'Afrique. Donc c'est désastreux, ce genre de loi.
Alors, Jean-Marc Daniel, là, vous êtes un peu coincé parce que vous dénoncez la rente d'un côté et de l'autre, vous êtes un militant de la concurrence. Là, Trump renforce la rente et la concurrence en même temps.
Il renforce pas vraiment la rente, il renforce le fait que effectivement l'utilisation de cet argent de la rente va devenir opaque. Mais je pense qu'il faut pas trop se faire d'illusions, c'est-à-dire que l'excès de règles finit par générer du marché noir, finit par générer gens qui contournent la règle. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de douaniers, il y a aussi beaucoup de contrebandiers. C'est-à-dire il y a un moment où effectivement à trop vouloir judiciariser l'économie, à trop vouloir imposer des règles morales, on génère et on légitime des comportements qui sont des comportements au contraire illégaux. Et donc je pense qu'il y a un vrai problème là, effectivement, dans le monde minier, notamment dans un certain nombre de pays qui sont centrés sur la production minière, dont l'activité repose exclusivement sur la production minière. Il y a dans ces pays, effectivement, des mécanismes d'accumulation par des castes dirigeantes, par des entreprises, du bénéfice de la rente, de l'incapacité à redistribuer la rente vers l'ensemble de la population. Mais je crois que, effectivement, le véritable enjeu, c'est de répondre d'abord à l'aspect criminel qui peut y avoir à l'utilisation de la rente, c'est de répondre à la façon dont on doit utiliser la rente pour assurer le développement d'un certain nombre d'économies, le faire par des textes dont on sait très rapidement et de façon évidente qu'ils vont être contournés et qui vont générer une forme de marché noir, à mon avis, c'est inefficace.
C'est une pierre dans votre jardin, Thierry Filippona. Quand on régule, on se fait contourner ?
Il y a une autre façon de voir les choses. déclarer demain une journée sans limite de vitesse et sans gendarmerie sur les routes, moi je vous conseille de ne pas prendre votre voiture. Parce que les êtres humains sont ainsi faits qu'ils ne vont pas se limiter. Donc il faut trouver le bon équilibre. Après ça, Jean-Marc Daniel a un point quand il dit trop de règles, trop de tatillonnes excessives vont générer des comportements de contournement. Évidemment, évidemment, ça c'est vrai. De là à dire que c'est parce qu'on a mis des règles qu'il y a des gens qui contournent ou qui trichent, là je m'inscris en faux, parce que encore une fois, il faut trouver cet équilibre.
Pierre-Noël Giraud.
Ça c'est très général, pardonnez-moi. Bien sûr, trop de règles peut tuer la règle, mais dans le cas précis, il ne s'agit pas du tout de ça. C'était une règle qui forçait les compagnies à donner une information. Et cette information, c'est on a versé tant au budget public. Cette information...
D'un État.
Tiers. Voilà, c'est tout. Bon. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une initiative qui s'appelle Initiative de transparence des industries extractives, qui a été lancée par Tony Blair et qui est volontaire, à laquelle adhèrent les États, où les États déclarent ce qu'ils ont reçu, les compagnies déclarent ce qu'elles ont donné. Franchement, en quoi c'est une réglementation qui attire la fraude? Pas du tout. Ça permet à la société civile d'avoir des chiffres vérifiés par des experts comptables sur lesquels elle peut, elle, s'adresser au gouvernement en demandant des comptes. Vous avez reçu cet argent, qu'en avez-vous fait? Ça va dans le sens de la démocratie. C'est une production d'informations. On ne peut pas être contre.
L'une des lois auxquelles Donald Trump veut s'attaquer, Pierre-Yves Dugas nous en parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, c'est la loi Dodd-Frank qui avait été promulguée en 2010 par Barack Obama en réponse aux excès qui avaient provoqué la crise financière de 2007-2008. C'est un pavé énorme, cette loi, Thierry Philippona, mais qu'est-ce qu'elle dit en synthèse?
C'est une loi qui est effectivement un pavé énorme, qui a eu comme dynamique d'essayer de traiter toutes les questions qui se posaient au monde financier en une seule loi. Contrairement à la façon dont on a traité la question en Europe, où sous la mandature de la Commission européenne précédente, en l'occurrence c'était dirigé par Michel Barnier sur cette thématique-là, il y a eu 40 réglementations différentes. Et en fait, ces 40 réglementations différentes ont fait peu ou prou la même chose, ont eu la même ambition en tout cas qu'une seule loi qui est la loi Dodd-Frank. Donc la loi Dodd-Frank, elle a regardé trois grands types de questions. La question de la protection des consommateurs, la question de la stabilité financière et la question de la transparence des marchés. Sur la stabilité financière, elle a effectivement visé à renforcer le capital réglementaire des banques, avec une logique qui est de dire, voilà, il faut suffisamment de fonds propres pour pouvoir absorber les chocs. Il y a eu également une partie qui s'appelle la règle Volcker, la Volcker Rule, qui consiste à dire, votre trading purement spéculatif pour compte propre va être séparé de la banque qui fait un métier de banque traditionnelle, c'est-à-dire prêter de l'argent, pour faire simple. Voilà, donc séparation de ces deux activités. Et puis, il y a eu toute la partie protection des consommateurs, effectivement, avec tout ce côté travailler dans le meilleur intérêt de vos clients, information, transparence des commissions. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est tout à fait typique que l'administration Trump dise bon, « Travailler dans le meilleur intérêt de ses clients, c'est pas quelque chose d'important ». Sur le sujet de la stabilité financière, il y a une initiative qui a l'air, on va parler prudemment, parce qu'on est au tout début de cette administration, de vouloir être prise notamment sous l'impulsion de Gary Cohn, qui était le numéro 2 de Goldman Sachs, et qui est maintenant
le principal conseiller
économique de Donald Trump, et qui consiste à dire qu'il faut assouplir ce qu'on appelle les stress tests du monde bancaire. Un stress test, stricto sensu, c'est pas une réglementation. C'est juste les régulateurs qui se disent, bon, je vais faire tourner des scénarios, puis je vais regarder ce qui arrive à mes institutions financières dans telle ou telle circonstance. Et il dit, on va pas aller chercher trop loin, on va pas trop creuser. Quand on y pense, c'est assez extraordinaire, parce que là, on n'est même pas au niveau de la réglementation, on est au niveau de, bon, je vais pas trop regarder, parce que au cas où j'arriverai sur quelque chose qui puisse remettre en cause la stabilité financière, faudrait quand même pas que je demande plus de capital aux banques. Bon, il faut quand même se rappeler les conséquences de la dernière crise financière, qui ont été absolument phénoménales. En quelques mois, il y a eu 50 millions de chômeurs supplémentaires dans le monde. La crise a coûté plusieurs centaines de milliards de dollars aux contribuables américains. En Europe, le sauvetage du système bancaire, en cumulé tout pays confondu, a représenté 400 milliards d'euros. Bon, voilà. Donc, on n'est pas en train de parler de choses...
Anecdotiques. Alors c'est pourquoi déjà aux États-Unis, d'ailleurs, on craint, Thierry Philipona, un nouvel emballement des marchés financiers. Nicolas Champeau est l'envoyé spécial de RFI à San Francisco. À l'université de Stanford, il a rencontré Anatan Mati, une professeure d'économie et de finance réputée, et il lui a demandé si à ses yeux, la politique économique et financière que Donald Trump voulait mettre en œuvre menaçait la stabilité du système financier américain. Écoutez la réponse d'Anatan Mati.
Well, the way they talk sounds like they might pressure the regulators.
Eh bien, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'ils pourraient faire pression sur leurs régulateurs pour changer certaines règles ou bien la manière dont elles sont appliquées, et cela pourrait être dangereux. S'ils arrêtent, par exemple, de s'intéresser aux produits dérivés, des produits très opaques et très risqués, dont il est très difficile de mesurer le danger réel, et que certaines banques vendent dans des quantités effrayantes, des milliards et des milliards de dollars, eh bien, si cela reste opaque, cela pourrait être très dangereux. Et puis, il y a aussi la loi de protection des consommateurs. Et le problème, si l'on assouplit les règles, c'est que les gens pourraient finir par prendre des risques qui aboutiraient à mettre en danger les banques qui leur auraient prêté de l'argent. Et on aurait une répétition de ce que l'on a déjà vu. On a vraiment la mémoire courte.
La Maison-Blanche a tendance à dire, désormais, la nouvelle administration, que toutes ces règles, en fait, ce n'est que de la paperasse administrative, de la bureaucratie, qui prend énormément de temps aux banques et qui leur coûte énormément d'argent. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Non, bien sûr que non. Leur manière d'appréhender la régulation en disant que c'est cher est vraiment dangereuse, parce que si conduire lentement a un coût pour un conducteur, ou si pour quelqu'un qui est ivre de prendre un taxi ou passer la nuit à l'hôtel pour éviter de prendre le volant, ce n'est pas un coût dont il faut faire un problème. Donc la question, c'est pour qui est la dépense ? Il faut aussi se demander pourquoi nous avons ces règles. Elles existent pour éviter de nuire à autrui, et l'industrie financière a une très grosse capacité de nuisance. La manière dont ils parlent de ces règlements et dont ils les discréditent et dont ils parlent du crédit en disant qu'il n'y a pas assez de crédit, ce qui est juste faux, tout cela est vraiment préoccupant.
La menace peut-elle également venir de l'abrogation de la loi dite fiduciaire qui demande aux banques de proposer à leurs clients des solutions qui sont dans l'intérêt de leurs clients, notamment lorsqu'il s'agit de produits pour financer leur retraite.
L'un des problèmes qu'on a quand quelqu'un achète un produit financier risqué, par exemple pour sa retraite, c'est que parfois le client en sait vraiment beaucoup moins que le conseiller auquel il fait confiance. Et ici, aux États-Unis, il est incroyablement préoccupant qu'en raison du niveau très élevé de personnes privées qui investissent pour leur retraite, il y ait des gens qui s'autoproclament conseillers, mais qui n'exercent pas ce métier loyalement. Le ministère du Travail a énormément enquêté sur ce phénomène et instauré des règles évidentes dont la nécessité saute aux yeux. Et je mets au défi Trump et Gary Cohn, son principal conseiller financier, et tous ces gens, de me dire ce qui fait le problème avec ces règles et pourquoi il faudrait les abroger. Tout cela pour dire que si vous vous intitulez conseiller, vous devez conseiller le client dans son intérêt à lui.
C'était Anatan Mati au micro de Nicolas Champeau. Et c'était Colissier qu'on a hier sur RFI. Nous parlons régulation, des régulations surtout aux États-Unis, avec trois invités, Jean-Marc Daniel, Thierry Philipona et Pierre-Noël Giraud. Thierry Philipona, Anatan Mati rejoint vos préoccupations quand elle dénonce ses conseillers malhonnêtes.
Anatan Mati met le doigt sur, j'ai envie de dire, le cœur de ce que doit être une réglementation financière, c'est-à-dire le sujet de l'adéquation d'un produit financier par rapport à un client. Il est évident que certains produits financiers sont particulièrement sophistiqués, particulièrement compliqués, le cas échéant risqué, ce qui n'est pas un mal en soi. Simplement, si le client en question a la capacité de l'apprécier, eh bien c'est son choix. Il a fait son analyse, il fait son choix, il gagne, tant mieux pour lui, il perd, il savait ce qu'il faisait. Donc là, il ne faut pas venir pleurer quand on perd. Par contre, quand un client qui n'a objectivement pas les moyens d'analyser le produit ou l'investissement dans lequel on le met prend un risque qu'il n'a pas compris, à ce moment-là, il y a un problème. Et c'est tout le débat de est-ce qu'il est dans la responsabilité de la puissance publique de protéger, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais j'en trouve pas de meilleur, le client qui n'aurait pas compris ce qu'il achetait ou pas. Il y a un débat philosophique derrière, on le voit bien, mais en tout cas, clairement, la réglementation telle qu'elle a été élaborée depuis 7 ou 8 ans, des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe, va dans le sens de faites des tests d'adéquation d'un produit financier vis-à-vis de votre client, et non pas je bannis ce qui est risqué, ce qui est un raccourci trop rapide qui n'a pas grand intérêt. Il faut prendre du risque. Financer l'économie, c'est prendre du risque. Si on ne prend pas de risque, on ne finance rien. Mais adéquation. Après ça, si on dit on fait plus ce test d'adéquation, ça mène à des situations où des gens à qui on a sorti un très beau discours commercial sur un produit qui est incroyablement risqué, et croyez-moi, dans certaines fonctions que j'exerce, on les voit, ces produits, eh bien ces produits vont pouvoir être écoulés à des pauvres gens qui vont attraper ça aveuglément et par confiance vis-à-vis d'un vendeur qui fait bien son boulot de vendeur, et puis la fin de l'histoire est connue. Et ça, c'est contraire à tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une société et pour faire fonctionner une économie.
Jean-Marc Daniel.
Oui, je crois qu'il faut aller au-delà de ce raisonnement qui consiste à dire est-ce que vous comprenez ou non ce que vous achetez. Parce que la caractéristique de la banque, c'est que vous prenez des risques même quand vous n'êtes pas associé à un produit risqué. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre boulanger fait faillite, bon, mais très bien, il a fait faillite, vous changez de boulanger. Si votre banquier fait faillite, en tant que déposant, vous êtes le créancier de ce banquier. Et même si vous n'avez pris aucun risque, si vous êtes contenté de déposer de l'argent chez lui, au moment où il fait faillite, vous pouvez perdre une partie de ce que vous lui avez confié. Et donc, c'est pas que vous n'avez pas été au courant du produit qu'il vous a donné, c'est que vous êtes associé à une aventure qui vous est extérieure. Et donc, je crois que le véritable enjeu dans la régulation financière, c'est de faire en sorte que l'on protège le déposant, même quand il ne prend pas de risques. S'il prend des risques, et l'idée qui me paraît absolument incongrue, c'est de considérer que forcément, le déposant est un idiot. Non, le déposant, il est informé, avec le développement intellectuel maintenant, des nouvelles technologies, tout ça, il sait ce qu'il fait. Le problème, c'est pas que il a pris un risque, c'est qu'il est dans une structure et dans une institution qui peut l'associer à sa faillite indépendamment.
Mais vous militez là pour plus de régulation?
Non, je milite pour qu'il y ait des mécanismes d'assurance du déposant. Mais que le déposant, effectivement, dire à le déposant, vous allez être contraint de faire ci, 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 ça. Non, le déposant, simplement, il est dans une aventure qui est un peu particulière et donc il faut qu'il y ait des mécanismes d'assurance vis-à-vis de ça. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'on est quand même, on a beaucoup critiqué la finance et on a dit que c'est l'excès de libéralisme. La crise de 2008-2009, on peut l'analyser de diverses formes, mais on nous a porté au nu M. Greenspan en disant que c'était un génie.
C'était le gouverneur de la réserve fédérale américaine.
Il parlait à l'oreille des marchés. Et puis ensuite, on nous a dit que c'est un incapable, il a plongé la planète. Bon, M. Greenspan, c'est un fonctionnaire. M. Greenspan, c'est un représentant d'une entité qui est une entité en situation de monopole et qui n'est pas en situation d'être concurrencé sur les marchés. Et donc, je pense que la bonne régulation dans cette affaire, encore une fois, c'est d'assurer le déposant, de dire au déposant, écoutez, si vous êtes dans cette aventure-là, vos dépôts sont protégés par des mécanismes. Donc, il y a des fonds d'assurance. C'est un peu ce qu'il y a dans l'union bancaire. Et deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de concurrence possible. En particulier, on l'a en France où on peut, il y a de plus en plus de possibilités maintenant de quitter la banque si on a le moindre doute.
Pierre-Noël Giraud.
Capacité à se retirer.
Thierry Philipponin, je vous donne la parole après, mais Pierre-Noël Giraud, vous en pensez quoi?
Ah ben là, je vais être à nouveau assez radical. On a uniquement parlé d'un aspect du problème qui est l'information du petit épargnant. Oui, en effet, le fonctionnement de l'industrie financière dans les dernières années a été une espèce d'aspirateur de l'épargne des petits épargnants au profit de super profits de l'industrie financière. Mais ce n'est qu'un aspect du problème. L'aspect fondamental, celui qui a provoqué la crise de 2008, c'est le risque de système. C'est l'aspect stabilité financière. Alors là, sur ce point, je vais être clair, on n'a rien fait. Ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire l'activité finalement financière qui n'est pas sous le coup des réglementations bancaires, représente 50% de l'activité financière. Autrement dit, soyons brefs, nous allons, et ceci, que le vice-président de Goldman Sachs soit devenu le conseiller économique de Trump ou pas, même avec la réglementation ancienne, nous allons inévitablement vers une énorme crise financière du type de celle de 2008. Voilà. Et sur ce point de la stabilité financière, la seule voie de salut pour nous, d'une certaine manière, c'est que Trump...
Nous, c'est qui ?
Les Européens. Trump va provoquer une crise financière. Il faut s'en protéger. Il est grand temps de réfléchir à un système européen de stabilité financière déconnecté du système américain, à retrouver notre autonomie en matière de politique de stabilité financière.
La loi Dodd-Frank, c'était pas un modèle de régulation.
Mais oui, mais bien sûr, comme vous l'avez dit, c'était une très bonne idée, mais sauf que c'est une usine à gaz qu'on sait pas mettre. C'est pas assez radical. Ce n'est pas vrai aujourd'hui que les activités de crédit sont séparés des activités de pure spéculation, au bon sens du terme, prise de risque sur les marchés financiers. Et quant aux marchés financiers, ils sont alimentés en permanence dans leur croissance, dans leur bulle, par des politiques monétaires accommodantes et par cette perméabilité complète entre le monde du crédit. J'emprunte à taux quasiment zéro pour aller jouer sur des marchés. Et les banques font ça, continuent à faire ça tout le temps. Donc nous allons, rien n'a changé. Peut-être un peu meilleure information des clients, peut-être quelques marchés dérivés un peu mieux régulés, mais sauf que vous régulez des marchés dérivés, immédiatement se créent d'autres marchés dérivés de gré à gré qui explosent et où les risques de contrepartie sont de plus en plus grands. Donc voilà, malheureusement, parce que ça va faire souffrir beaucoup de monde, nous allons tout droit et vers une crise financière qui signera le déclin achevé des États-Unis. Hein? De même que le protectionnisme de Trump signe aussi le déclin des États-Unis par rapport aux politiques mercantilistes agressives de la Chine. Et il est grand temps pour nous, Européens, de faire en sorte de mettre les barrières qu'il faut pour ne pas être pris dans cette contagion.
Thierry Philipponin, vous pensez qu'on va vers dans le mur, comme le dit Pierre-Noël Giraud ?
Si je peux me permettre, ce que disait Pierre-Noël Giraud, pardonnez-moi, me semble faux. Dire qu'on n'a rien fait en matière de régulation du shadow banking depuis quelques années est faux. Concrètement, c'est quoi le shadow banking ? C'est tout ce qui consiste à prêter de l'argent en dehors du système des banques stricto sensu. On a beaucoup avancé. C'est très technique, on n'a probablement pas le temps de rentrer dedans.
Non,
c'est pas parfait. Je dis pas qu'il va pas y avoir de nouvelles crises financières. Des crises financières, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais dire qu'on n'a rien fait, pardonnez-moi, ce n'est pas exact.
Alors, en tout cas, il y a un endroit très particulier où l'on suit de très près les débats et les décisions de Donald Trump autour de cette loi Dodd-Frank. C'est la RDC, la République démocratique du Congo, d'où viennent des minerais comme le tantale qu'on utilise beaucoup dans l'industrie moderne. L'article 1502 de la loi Dodd-Frank oblige les industriels américains à s'assurer de la traçabilité de ces minerais pour garantir que leur achat ne finance pas de groupes armés. Sous la pression internationale, les autorités congolaises ont dû mettre parallèlement en place une législation conforme aux standards internationaux. Alors, dans le Nord Kivu, la perspective de la suppression éventuelle de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank provoque des réactions très partagées. Un reportage Éco-d'ici, Éco d'ailleurs, signé Stéphanie Aglietti à Goma, en RDC.
Avant 2010, Ben Mwanga Tchoutchou, le directeur général de la société minière de Bisunzi, n'avait aucun contrôle sur les violations des droits de l'homme et la fraude qui sévissait dans sa mine de coltan à Rubaya. Mais depuis, selon lui, grâce à la loi Dodd-Frank et au prix de longs efforts, les progrès sont là.
Ça nous a donné la paix parce que avant cela, il y avait un amalgame des militaires de l'État qui étaient incontrôlés. Il y avait des groupes armés, des enfants. Donc c'était une catastrophe et du désordre. Et aujourd'hui, la société minière de Bisunzi n'aurait jamais existé telle qu'elle est aujourd'hui, ni été pour la loi Dodd-Frank.
Ben Mwanga Tchoutchou estime qu'une remise en cause de l'article 1502 de la loi américaine serait un grave retour en arrière et se dit prêt à plaider sa cause devant le Congrès américain. Même inquiétude pour Janvier Moureri, défenseur des droits de l'homme spécialisé dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles.
Ça serait une catastrophe si Trump prenait cette grave décision-là. Parce que moi, je pense qu'il y aurait encore une certaine réorganisation des groupes armés et qui pourraient éventuellement s'approvisionner à partir des minerais. Il ne faudrait pas que les intérêts économiques supplantent les droits humains.
La loi Dodd-Frank a provoqué un arrêt quasi immédiat des exportations de minerais et la mise en œuvre du système de traçabilité préalable à toute reprise des exportations prend du temps dans nombre de sites miniers du Nord Kivu. Toutefois, selon Emmanuel Dibumandi, à la tête de la division des mines du Nord Kivu, l'instance étatique en charge du secteur, la loi Dodd-Frank a été un mal nécessaire.
Pour nous, c'était un choc, comme un électrochoc, pour mettre tout le monde au pas. Nous n'allons pas reculer. Et à l'heure où nous sommes, je pense qu'il y a déjà assez d'avancées. Et quand bien même cette loi était abolie, ça ne nous empêchera pas de continuer à aller de l'avant.
Selon Emmanuel Dibumandi, à Rubaya, les exportations légales de coltan ont presque été multipliées par 6 depuis la mise en place du système de traçabilité.
Un reportage signé Stéphanie Aglietti à Goma en RDC. Pierre-Noël Giraud, ça vous inspire quoi, le fait qu'une décision prise à Washington par Donald Trump ait cet impact-là à l'autre bout de la planète, en Afrique ?
Non, mais j'ai dit que c'était une erreur d'avoir supprimer cette loi, mais en même temps, ce qui est évident, comme ça a été dit, c'est ce qui compte, c'est les causes internes. C'est-à-dire, s'il y a une administration au Congo qui est capable d'imposer ça, c'est ça le point central. Ça réussira. Sinon, les lois externes, les pressions externes seront contournées, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Marc Daniel. Voilà. Donc, c'est une aide temporaire, bienvenue à mon avis, à ce que se structure un État capable de faire appliquer des lois sur la traçabilité, les conditions de travail dans les mines, l'usage des rentes minières, etc.
Mais cela souligne aussi que ce n'est pas seulement l'Europe qui est intéressée à la stabilité financière et à ce que soit évitée une crise financière aux États-Unis, mais aussi des régions comme l'Afrique ou le reste de la planète.
Mais vous savez que moi, je suis de ceux qui pensent que le grand défi du siècle, c'est l'Afrique. 2,5 milliards d'habitants en 2050, 4,5 en 2100. Toutes les questions mondiales les plus importantes, en fait, sont maximales en Afrique et se posent de manière absolument cruciale en Afrique. J'en ai compris la stabilité financière, évidemment.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre-Noël Giraud, deux remarques. La première remarque, encore une fois, lorsqu'on fait des lois et des textes qui deviennent assez vite inapplicables, on a du marché noir, du shadow banking, de la fintech, des
La fintech, c'est quoi ça?
La fintech, c'est la finance dérégulée qui est organisée de gré à gré entre deux entités. Donc, on a immédiatement le système est assez réactif et donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de contrebandier, mais il faut savoir que si on va trop loin, le douanier général du contrebandier. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que la jeunesse mondiale étant en Afrique, l'avenir du monde est en Afrique. Et donc on ne peut pas réfléchir effectivement à la régulation que l'on fait de la mondialisation sans penser Afrique.
Thierry Philippona, ce qui se passe en RDC en lien avec ce qui se passe à Washington, ça donne des obligations supplémentaires aux régulateurs à vous en particulier, mais aux régulateurs avec un S en général?
Il y a bien sûr des obligations du fait, pardonnez-moi, je suis à un niveau presque trivial, mais de l'interconnexion des économies dans une économie mondiale. Après ça, stricto sensu, j'ai bien dit stricto sensu, cette article de la loi Dodd-Frank n'est pas un article de stabilité financière. Ça ne veut pas dire qu'il a sa pertinence, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit en disant qu'il était très pertinent et qu'il est juste contre-productif et économiquement inutile de le supprimer, mais pour autant, stricto sensu, ce n'était pas un article de stabilité financière.
Eh bien, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Thierry Philippona, Pierre-Noël Giraud, Jean-Marc Daniel, de nous avoir éclairés sur ce qui nous attend avec Donald Trump et ses projets de dérégulation économique et financière. Guillaume Munier était au pupitre technique pour réaliser et mettre en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur